11.
Pour commencer, les nouvelles en provenance du Nouveau-Mexique,
dit Marianne lorsque Roland se rassit.
Ils vous ont observé autant qu'ils l'ont pu, et bien que ce qu'ils aient vu côté tonnerre ait été flou, dans le meilleur des cas, ils pensent qu'Eddie a dit quelque chose à Jack Chambers. Peut-être quelque chose d'important, peu de temps avant de mourir. Sans doute lorsqu'il était couché à terre, avant de... Je ne sais pas.
Avant de glisser dans la pénombre, suggéra Roland.
Oui,
approuva Nancy Dipno.
C'est ce que nous pensons. Enfin, c'est ce qu'ils pensent, je veux dire, nos briseurs à nous.
Marianne la regarda en fronçant les sourcils, signifiant qu'elle n'était pas le genre de femme à se laisser interrompre. Puis elle dirigea de nouveau son attention vers Roland.
Il est plus facile pour nos agents de voir des choses de ce côté-ci, et plusieurs d'entre eux sont sur deux. Pas catégoriques, mais sur deux. Pour dire que Jake a pu transmettre ce message avant de mourir à son tour.
Elle marqua une courte pause.
Cette femme avec qui vous voyagez, Madame Tannenbaum.
Tannenbaum, corrigea Roland.
Il le fit sans réfléchir parce qu'il avait l'esprit occupé ailleurs, furieusement occupé.
Tannenbaum,
approuva Marianne.
Elle vous a sans doute répété une partie de ce que Jack lui avait dit dans les derniers instants. Mais il y a peut-être autre chose. Non pas quelque chose qu'elle voudrait garder pour elle, mais une chose dont elle n'aurait pas mesuré l'importance. Vous voudrez bien lui redemander de vous répéter tout ce que Jack a dit avant que vos chemins se séparent ?
Oui,
répondit Roland. Bien sûr qu'il le ferait. Mais il n'avait pas le sentiment que Jack avait transmis le message d'Eddie à Madame Tannenbaum. Non, pas à elle. Il se rendit compte qu'il avait à peine pensé à Otte depuis qu'ils avaient garé la voiture d'Irène, mais Otte était bien évidemment avec eux. En ce moment même, il était couché au pied d'Irène, assise dans le petit parc au coin de la rue, tous les deux au soleil à l'attendre.
« Bon, dit-elle, c'est très bien. Changeons de sujet. »
Marianne ouvrit le grand tiroir central de son bureau. Elle en sortit une enveloppe matelassée ainsi qu'une petite boîte en bois. Elle tendit l'enveloppe à Nancy Dipno. Quant à la boîte, elle la posa devant elle sur le bureau.
« Pour la suite, c'est à Nancy de le dire, et je te demanderai d'ailleurs d'être brève, Nancy, parce que cet homme semble avoir hâte de repartir au plus vite. »«
Dis-le, » fit Moses en tapant de sa canne sur le sol.
Nancy le regarda, puis Roland, ou pas loin de lui, du moins. La couleur lui montait aux joues et elle avait l'air troublée.
Stephen King,
commença-t-elle avant de s'éclaircir la gorge et de répéter. Puis elle parut ne pas savoir comment poursuivre et le rouge de ses joues s'accentua.
Prenez une inspiration profonde, conseilla Roland. Retenez l'air un moment.
Elle obéit.
Maintenant, expirez.
De nouveau, elle s'exécuta.
Maintenant, dites-moi ce que vous avez à me dire, Nancy, nièce d'Aaron.
Stephen King a écrit une quarantaine de livres,
commença-t-elle. Elle était toujours très rouge. Roland se dit qu'il découvrirait assez tôt la signification de sa réaction, mais sa voix était nettement plus calme.
Un nombre incroyable d'entre eux, même parmi ceux écrits dans ses jeunes années, sont reliés de près ou de loin à la Tour Sombre. C'est comme s'il avait toujours eu cette histoire à l'esprit, depuis le tout début.
« J'ai la certitude de ce que vous supposez, »
répondit Roland en croisant les mains.
« Je vous dis grand merci. »
La réaction du pistolero sembla l'apaiser un peu plus.
« D'où les Calvin, »
précisa-t-elle.
Trois hommes et deux femmes avec des talents d'érudition et qui ne font rien d'autre de 8 heures du matin à 4 heures du soir que lire les œuvres de Stephen King. Ils ne font pas que les lire,
précisa Marianne.
Ils font des recoupements par lieu, par personnage, par thème, ce qu'ils peuvent trouver, même par nom de marque. Une partie de leur travail consiste à chercher les références à des personnes vivant ou ayant vécu dans le monde clé, reprit Nancy. Des personnes réelles, pour résumer, et des références à la tour sombre, bien sûr.
Elle lui tendit l'enveloppe et Roland sentit à l'intérieur les coins de ce qui ne pouvait être qu'un livre.
Si King a jamais écrit un livre clé, Roland, en dehors de la série de la tour sombre elle-même, je veux dire, nous pensons que c'est celui-ci.
Le rabat de l'enveloppe était tenu fermé par une boucle. Roland adressa à Marianne et à Nancy un regard de côté. Toutes deux hochèrent la tête. Le pistolero fit sauter la boucle et tira hors de l'enveloppe un volume très épais, avec une couverture rouge et blanche. Pas d'image, rien que le nom de Stephen King et un seul autre mot. Rouge pour le roi, blanc pour Arthur l'aîné, pensa-t-il. Le blanc triomphe du rouge, telle est la volonté éternelle du cas. Ou peut-être n'était-ce là qu'une coïncidence ?
Quel est ce mot ? Demanda Roland.
Insomnie,
dit Nancy. Cela signifie « je sais ce que ça signifie », l'interrompit Roland.
Pourquoi me donnez-vous ce livre ?
Parce que l'intrigue s'articule autour de la tour sombre, expliqua Nancy, et parce qu'on y trouve un personnage du nom d'Ed Dipno. C'est le méchant de l'histoire, il se trouve.
Le méchant de l'histoire, se dit Roland. Pas étonnant qu'elle ait pris des couleurs. Vous avez quelqu'un de ce nom dans votre famille ?
Demanda-t-il.
Autrefois, oui. À Bangor, qui est la ville à laquelle fait référence King quand il parle de Derry, comme dans ce livre. Le véritable Ed Dipno est mort en 1947, l'année de naissance de King. Il était bibliothécaire et n'aurait pas fait de mal à une mouche. Celui d'Insomnie est un fou qui tombe sous l'emprise du roi cramoisi. Il essaie de transformer un avion en bombe volante et de le faire s'écraser contre une tour pour tuer des milliers de personnes.
Prions pour que ça n'arrive jamais, dit le vieillard d'un air sombre, regardant dehors la ligne d'horizon new-yorkaise, peuplée de gratte-ciel. Dieu sait que ça pourrait.
Dans l'histoire, son plan échoue, dit Nancy. Il y a effectivement des gens qui se font tuer, mais le personnage principal, un vieux monsieur du nom de Ralph Roberts, réussit à empêcher le pire.
Roland observait attentivement la petite nièce d'Aaron Dipno.
Et le roi cramoisi est mentionné là-dedans, par son nom ?
Oui, confirma-t-elle. Le Ed Dipno de Bangor, le véritable Ed Dipno, était un cousin de mon père, très éloigné. Les Calvin pourraient vous montrer l'arbre généalogique si vous le souhaitiez, mais il n'y a qu'un lien très indirect avec mon oncle Aaron. Nous pensons que King s'est peut-être servi de ce nom dans le livre pour attirer votre attention, ou la nôtre, sans même se rendre compte de ce qu'il faisait.
Un message de son sous-esprit, songea le pistolero à voix haute.
De son subconscient, oui, dit Nancy, l'air réjoui. C'est exactement ce que nous pensons.
Ce n'était pas exactement ce que pensait Roland, néanmoins. Le pistolero se remémorait comment il avait envoûté King en l'an 1977. Comment il lui avait dit de chercher à entendre le Vescagan, le chant de la tortue. Le sous-esprit de King, cette partie de lui qui n'avait jamais cessé d'obéir à l'ordre sous hypnose, avait-il glissé un extrait du chant de la tortue dans ce livre ? Un livre que les serviteurs du roi avaient peut-être négligé parce qu'il ne faisait pas partie du « cycle de la tour sombre ». Roland pensait que c'était possible et que le nom d'Hypno pouvait en effet tenir lieu de sigle, mais
« je ne peux pas le lire. Un mot par-ci, par-là peut-être, mais pas plus. »
« Vous, non. Mais ma fille, si. ma fille Odetta, que vous appelez Susanna. »
Rolante hocha lentement la tête. Et même s'il commençait réellement à avoir des doutes, son esprit lui renvoya une image très nette d'elle et lui, assis autour d'un feu, un grand, car la nuit était froide, avec Otay entre eux. Dans les rochers au-dessus d'eux, le vent gémissait son amère mélodie hivernale, mais ils s'en moquaient. Ils avaient l'estomac plein, le corps réchauffé, vêtus de peaux de bêtes qu'ils avaient tuées eux-mêmes, et ils avaient ce récit pour les divertir. L'histoire de l'insomnie par Stephen King.
« Elle vous le lira en chemin, » suggéra Moses. « Sur votre dernier chemin, » Je dis bombe.
Oui, se dit Rolant.
Une dernière histoire à entendre, un dernier chemin à parcourir. Celui qui mène à Cancanorei et à la tour sombre. Ou du moins se plaît-on à le croire.
Dans cette histoire, reprit Nancy, le roi cramoisi utilise aide d'hypno pour tuer un enfant particulier, un garçon du nom de Patrick Danville. Juste avant le coup fatal, alors que Patrick et sa mère attendent qu'une femme prononce un discours, le garçon fait un dessin, un qui vous montre vous, Rolant, et le roi cramoisi, apparemment emprisonné au sommet de la tour sombre.
Rolant sursauta sur son siège. Au sommet ? Emprisonné au sommet ?
Doucement, intervint Marianne. Du calme, Rolant. Les Calvin analysent les ouvrages de Stephen King depuis des années, dans les moindres mots et les moindres allusions. Et tout ce qu'ils produisent est transféré à nos Falken du bon esprit au Nouveau-Mexique. Bien que ces deux groupes ne se soient jamais rencontrés, il serait tout à fait approprié de dire qu'ils travaillent ensemble. « Non pas qu'ils soient toujours d'accord, » glissa Nancy. « Ça, on peut dire qu'ils ne le sont pas souvent, »
s'exclama Marianne sur le ton exaspéré de quelqu'un qui a dû arbitrer plus que son lot de chamaillerie.
Mais il y a une chose sur laquelle ils tombent bel et bien d'accord, c'est sur le fait que les références de King à la Tour Sombre sont presque systématiquement cryptées, et que parfois elles n'ont même aucun sens.
Rolland acquiesça.
Il en parle parce que son sous-esprit y pense sans arrêt. Mais parfois il bascule dans le charabia.
Oui,
confirma Nancy. Mais vous ne pensez visiblement pas que tout ce livre soit une fausse piste, ou bien vous n'insisteriez pas pour me le donner.
Certes, dit Nancy, mais ça ne signifie pas nécessairement que le roi cramoisi soit réellement enfermé au sommet de la tour. Même si je pense que ce n'est pas impossible.
Rolland réfléchit à sa propre conviction, qui était que le roi était enfermé à l'extérieur de la tour, sur une sorte de balcon. S'agissait-il d'une réelle intuition ou simplement d'un leurre auquel il voulait croire?
Quoi qu'il en soit, nous pensons que vous devriez partir à la recherche de ce Patrick Danville,
dit Marianne.
Tout le monde s'accorde à dire que c'est une personne réelle, mais nous n'avons pu trouver aucune trace de lui ici. Peut-être en trouverez-vous à Tonfoudre.
Au-delà, suggéra Moses.
Marianne acquiesça.
D'après l'histoire que King raconte dans Insomnie, vous le constaterez par vous-même, Patrick Danville meurt jeune. Mais ce n'est peut-être pas vrai, vous comprenez?
« Je ne suis pas certain, non. »«
Quand vous trouverez Patrick Danville, ou quand lui vous trouvera, il se peut qu'il soit toujours le garçon décrit dans ce livre, »
expliqua Nancy,
« ou bien qu'il soit aussi vieux que l'oncle Mose. »«
Pas de peau si c'est le cas, »
s'écria le vieillard avec un gloussement. Rolland souleva le livre, regarda de plus près la couverture rouge et blanche, passa le doigt sur les lettres légèrement en relief qui dessinaient un mot qu'il ne pouvait déchiffrer.
« Ce n'est qu'une histoire, n'est-ce pas ?»
Depuis le printemps 1970, lorsqu'il a tapé la phrase L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait,
dit Marianne Carver.
Très peu des choses que Stephen King a écrites n'étaient que des histoires. Ce n'est peut-être pas ce qu'il croit. Nous, si.
Mais toutes ces années passées à guetter le roi cramoisi vous ont peut-être appris à avoir peur de votre ombre, si cela vous sied,
se dit Roland. Puis à voix haute,
quoi d'autre alors, si ce ne sont pas des histoires?
C'est Moses Carver qui répondit.
Peut-être des bouteilles à la mer, c'est ce qu'on pense.
Dans la manière qu'il avait de prononcer ce mot, ponce, quasiment, Roland entendit un écho déchirant de Susanna et eut soudain envie de la voir pour vérifier qu'elle allait bien. C'était là un désir si fort qu'il lui laissa un goût amer dans la bouche.
Cette vaste mer, j'implore votre pardon, dit le pistolero, je rêvassais. Je disais qu'on pense que Stephen King nous lance des bouteilles dans la vaste mer, celle qu'on appelle le prime, dans l'espoir qu'elles vous atteindront et que les messages qui se trouvent à l'intérieur vous rendront possible, à vous et à mon Odetta, d'atteindre votre but.
Ce qui nous amène à nos ultimes cadeaux,
glissa Marianne.
Nos vrais cadeaux. Tout d'abord,
elle lui tendit la boîte. Le couvercle s'articulait sur une charnière. Roland posa la main à plat sur le dessus, dans l'intention de le faire basculer vers l'arrière, puis il se ravisa. Il marqua un temps d'arrêt et dévisagea ses interlocuteurs. Il les regardait tous avec de l'espoir et une sorte d'intérêt suspendu, expression qui le mit mal à l'aise. Une idée totalement folle, mais étonnamment convaincante, lui vint à l'esprit. Qu'il se trouvait présentement en face des véritables agents du roi cramoisi et que la dernière chose qu'il verrait en ouvrant cette boîte, ce serait un vif d'argent amorcé, en plein compte à rebours, à quelques clics à peine de l'explosion du monde entier autour de lui, et que le dernier son qu'il entendrait, ce serait leur éclat de rire fou et leur triomphale « Heil au roi rouge !» Ce n'était pas impossible, effectivement. Mais il arrivait un moment où il fallait faire confiance, parce que l'alternative à la confiance, c'était la folie.
« Si le cas en décide ainsi, qu'il en soit ainsi, »
pensa-t-il en ouvrant la boîte.